je ne vais pas dans mon intervention discuter toutes les modalités aujourd'hui en débat qui ont été citées par ma voisine sur la remédiation, sur est-ce qu'il faut individualiser les politiques de soutien, les territorialiser. Peut-être que ces débats, je les laisse pour la discussion, je les ouvrirai en fin d'intervention. Moi, sur ce que je voudrais essayer de faire pendant ces 45 minutes ou cette heure de contribution, c'est essayer de discuter la manière dont on peut se réapproprier le bilan des politiques de démocratisation scolaire, telles qu'elles ont été menées en France, mais aussi chez beaucoup de nos voisins européens et même aux États-Unis, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Essayer de les réhabiliter. Elles sont beaucoup attaquées aujourd'hui. Elles sont attaquées sur deux fronts au moins. Il y a des critiques vigoureuses, anciennes, qui renaissent de la droite, disons, pour simplifier outrageusement, c'est-à-dire qui part du principe selon lequel il y a une telle diversité des aptitudes individuelles des enfants, des aptitudes innées, qu'il est totalement illusoire de vouloir les scolariser tous jusqu'à 16 ans dans les mêmes systèmes d'enseignement, et qui donc dénonce les efforts qui ont été faits pour ouvrir à tous jusqu'à 16 ans et au-delà un enseignement unique, une école unique, qui dénonce cela comme illusoire, contre-productif, et in fine, pour être dans le thème du débat d'aujourd'hui, in fine, contraire à l'un de ses objectifs majeurs, à cette école unique, qui était de promouvoir l'égalité des chances. C'est-à-dire l'argument de la droite est de dire les plus doués des classes populaires ont finalement souffert de la disparition des écoles d'élite, des écoles sélectives, au sens où c'était pour eux un sanctuaire qui permettait aux plus doués d'accéder à l'élite sociale. Et la disparition de ces institutions, finalement, c'est à eux que ça a nui le plus. Donc vous avez aussi un argument non seulement sur une baisse générale du niveau entraînée par la démocratisation de l'enseignement secondaire en particulier, mais également un argument sur l'injustice profonde de cet effort. À gauche, toujours pour simplifier, hein, parce que les frontières ne sont pas si marquées, on trouve notamment des gens de gauche dans la première catégorie. À gauche, disons que ce qui aujourd'hui est particulièrement défendu comme idée, c'est une idée qui repose, elle, non pas sur le principe d'irréductible diversité des aptitudes, mais sur le principe que les places dans la société sont déterminées par des logiques tout à fait externes à l'école, et que donc vouloir continuer la démocratisation de l'école, vouloir continuer à diffuser l'éducation dans la société, c'est in fine se condamner à produire des frustrations, c'est-à-dire que comme le gâteau n'est pas extensible, on conduit à diffuser de l'espoir de promotion sociale à des gens qui, au bout du compte, seront des déclassés et dont les parchemins perdront totalement de la valeur au fur et à mesure qu'on diffusera l'éducation. Donc ça, c'est un argument très fort, qui est très prégnant dans beaucoup de représentations. Et je pense, comme pour le premier argument, qu'un examen détaillé, qui est aujourd'hui possible, hein, il y a un patrimoine d'études qui se sont développées dans beaucoup de pays, je pense que ces deux critiques, qui sont pas totalement, qui ont des logiques fortes, qui ne sont pas sans fondement, sont grandement relativisables au regard des bilans qu'on peut aujourd'hui tracer des politiques de démocratisation telles qu'elles ont été menées en France et dans les pays occidentaux jusqu'à récemment. Donc ça sera peut-être le premier moment de mon intervention, c'est réhabiliter un bilan, et notamment le réhabiliter au regard de ces deux critiques féroces qui mordent à gauche et à droite sur cet élan de démocratisation qui est aujourd'hui complètement brisé et en partie à cause de ces objections très fortes qui lui sont adressées. Je passerai ensuite un peu de temps pour essayer d'éclairer une deuxième forme de question. On peut qui surgit si on adhère à la réhabilitation du bilan, qui est, bon, alors peut-être que c'était bien dans les années 80 d'ouvrir le lycée, d'ouvrir l'université, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça reste pertinent? Donc, ça sera essayer de répondre à cette question, de savoir si le marché du travail en particulier, si la société de manière plus générale sont aujourd'hui, si on voit dans les tensions qui les traversent, des signes qui nous permettraient de dire oui, ça reste aujourd'hui pertinent d'aller plus loin, d'accueillir ces franges qui restent aujourd'hui en marge de l'enseignement supérieur notamment, et d'essayer de poursuivre cet effort. Donc essayer d'éclairer cette question qui n'est pas facile, parce que ça demande de regarder en détail ce qui se passe aujourd'hui et essayer de lire dans ce qui se passe aujourd'hui ce qu'il est pertinent de faire pour l'avenir, d'investir pour l'avenir. Et puis donc à la fin, si j'ai pas trop dépassé, j'essaierai d'ouvrir un petit peu sur les questions, parce que mon exposé aura sans doute donné l'impression que je suis un optimiste invétéré, que je trouve que tout va bien. En fait, pour dire la vérité, c'est assez amusant, parce que c'est un peu le contraire, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur de l'école, que parent d'élève, que fils d'institutrice, j'ai pas mal de reproches à adresser à l'école, donc c'est assez paradoxal que je me retrouve à la défendre comme ça. Donc peut-être en conclusion, essayer de voir quels pourraient être les objets de débat aujourd'hui, de progrès pour l'école, comment elle pourrait s'améliorer, comment elle pourrait aller plus loin, étant donné les faiblesses qu'on peut quand même repérer dans son fonctionnement. Donc sur le bilan, sur la première partie qui est une partie de réappropriation historique des bilans, ce que j'aime, les pays qui sont particulièrement intéressants pour cet exercice sont une fois encore les pays scandinaves, au sens où ils sont passés très tôt à l'école unique, et au sens surtout où ce qui les distingue, c'est pas tellement que l'école unique dans l'après-guerre, c'est pas tellement que dans l'après-guerre ils aient eu un système d'emblée plus ouvert à l'idée de se démocratiser, d'accueillir dans les mêmes écoles tous les enfants. Quand vous regardez le système scolaire finlandais, le système scolaire suédois, le système scolaire norvégien d'après-guerre, ils sont absolument aussi sélectifs et aussi impitoyables que le système scolaire anglais ou que le système scolaire français. C'est-à-dire que vous avez bien deux écoles qui coexistent, deux ordres scolaires, un ordre primaire dans lequel vous restez 4 ans, plus 2 années ou 3 complémentaires, et puis vous quittez l'école à 13 ou 14 ans, et une infime minorité de chaque classe d'âge qui a, elle, accès à l'ordre secondaire, au lycée, etc. Donc c'est un fonctionnement à bien des égards très similaire à celui qu'on connaissait en France, où la sélection se fait sur des critères méritocratique entre guillemets de résultats scolaires dans le primaire, mais au final, quand on regarde objectivement qui va où, on s'aperçoit que ce critère scolaire dans le primaire est complètement redondant avec un critère social, c'est-à-dire les classes sociales aisées vont dans l'école sélective et les classes sociales modestes sortent de l'école à 13 ou 14 ans. Donc ces systèmes étaient extrêmement sélectifs. C'est pas des systèmes, c'est des sociétés spéciales, c'est des sociétés particulières quand on les compare aux nôtres, plus centralisées sans doute, plus intégrées aussi. Mais en même temps, quand on regarde les débats qui animaient ces sociétés après-guerre, c'est sur l'école unique, c'est des débats qui ont de loin, en tout cas, la même virulence, la même violence que les débats qui ont animé, qu'on a pu connaître ici et qu'on connaît encore ici sur la pertinence d'avoir une école unique. Prenez la Suède qui aujourd'hui caracole en tête des classements scolaires. Quand on regarde comment elle est passée à l'école unique, c'était un processus extrêmement douloureux. La réforme a été plusieurs fois à l'agenda du Parlement, a été plusieurs fois ajournée parce que c'était impossible de trouver un consensus sur une réforme. Et c'est finalement assez tardivement par rapport à la Suède et à la Norvège qu'elle est passée à l'école unique au début des années 70. Donc c'est pas non plus que la société ait spontanément davantage adhéré à l'idée qu'il était pertinent d'accueillir dans le même primaire, dans le même secondaire, tous les enfants. Si c'est pas ça qui fait tellement leur spécificité, en tout cas aux yeux du chercheur. En revanche, ce qui est tout à fait impressionnant quand on regarde avec le recul et quand on regarde aujourd'hui comment nous on fonctionne. Ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que ces réformes dans ces pays, la Suède, la Finlande et même la Norvège, ont été menées en même temps d'une façon telle qu'était rendue possible leur évaluation. C'est-à-dire qu'elles ont été menées en sorte qu'on puisse, à l'issue de la mise en place de la réforme, se prononcer avec un certain degré de certitude et de précision sur la pertinence qu'il y avait eu de passer d'un système parfaitement segmenté, parfaitement avec une distinction parfaite entre deux filières très différentes, à un système intégré où tous les enfants vont à l'école au moins jusqu'à 16 ans et fréquentent les mêmes établissements, ne sont pas séparés dans des établissements différents et suivent dans une large mesure les mêmes enseignements jusqu'à 16 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire que... c'est assez fou pour des gens qui, comme moi, sont intéressés par l'évaluation des politiques publiques de se rendre compte que des choses qu'aujourd'hui, en 2009-2008, en France, on n'arrive absolument pas à faire passer dans l'ordre des choses, était déjà dans l'ordre des choses il y a 50 ans en Suède. C'est ça qui m'impressionne beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ça, que la réforme a été mise en place en même temps que le moyen de l'évaluer? Ça signifie qu'ils se sont mis d'accord pour ne pas mettre en œuvre l'école unique au même moment dans toutes les régions. Et chaque région s'est en grande partie, chaque municipalité en Suède, chaque région en Finlande s'est en grande partie désappropriée le pouvoir de décider si oui ou non elle allait passer en premier ou pas, au sens où une agence nationale ad hoc a été créée au moment de la réforme, qui a décidé parmi les volontaires, certes, pas partout en Finlande, non, il n'y avait même pas une histoire de volontariat, quelle région allait passer ou pas en premier dans l'école unique ou rester dans l'ancien système. Parce que quand vous procédez de la sorte, ce qui était parfaitement clair aux yeux des réformateurs scandinaves de l'époque, quand vous procédez de la sorte, vous vous mettez en mesure de comparer le destin scolaire puis social d'enfants nés dans le même pays, dans des régions voisines, à la même époque, qui traverseront donc la même histoire économique, mais qui, du fait de l'arbitraire de cette mise en œuvre de la réforme, auront certains grandi dans l'école unique et d'autres grandi dans l'ancien système. Et on est ainsi en mesure de comparer des groupes d'enfants, des groupes d'adultes plus tard, qui sont, on peut le vérifier, à bien des égards complètement similaires, sinon que cette façon de mettre en œuvre la réforme a fait que certains ont vécu une scolarité dans une école unique, intégrée, et les autres dans une école segmentée. Alors, les bilans de ces protocoles d'évaluation étaient disponibles, mais sous forme de rapports pas extrêmement clairs dans les langues scandinaves. Et c'est que finalement, assez récemment, que des chercheurs, disons, plus orientés vers une production rigoureuse de savoir académique, se sont intéressés à ce patrimoine complètement incroyable de données. Parce que ce qu'il faut ajouter dans le cas scandinave, c'est que c'est un autre rêve d'évaluateurs statisticiens, c'est qu'il y a des registres administratifs qui suivent les gens au jour le jour. On a leur électrocardiogramme heure par heure pendant toute leur vie. Donc en plus, on peut caler ce genre de données au protocole. Et donc faire des évaluations relativement précises, intéressantes et difficiles à contrer de ces réformes. Alors on l'a fait, l'un des pays pour lequel l'exercice a été fait le plus tôt, mais finalement on a été discuté parmi les économistes, en tout cas qu'au début des années 2000, hein, donc c'est quand même assez récent, c'est encore plus récent pour les évaluations suédoises et finlandaises. Alors qu'est-ce que révèle ? Il révèle des choses quand même assez intéressantes. Il révèle, première chose, alors la chose attendue, c'est qu'effectivement, deux enfants identiques, si le hasard a fait naître l'un dans une municipalité que l'agence a désignée pour passer de manière anticipée à l'école unique par rapport à un que le hasard a désigné pour naître dans une région, dans une municipalité que l'agence n'a pas fait passer à l'école unique. La première comparaison qui livre un résultat attendu, c'est que celui qui a été à l'école unique, en moyenne, est allé plus longtemps à l'école. Implicitement, ces réformes impliquaient un allongement de la durée minimum d'éducation, pour les classes populaires notamment, hein, de 13 à 16 ans. Donc on retrouve quelque chose d'attendu, mais qui est encore heureux qu'on le retrouve. La réforme a bien été effective. Un petit plus sur l'effet de la réforme sur les scolarités, on constate néanmoins quelque chose d'intéressant, c'est que pour les enfants des classes populaires qui réussissaient le mieux au primaire, on constate que le surcroît d'éducation dans les zones réformées, dans les zones passées à l'école unique, est supérieur au minimum attendu. C'est-à-dire que ça les a poussés à un minimum nouveau, mais au-delà. Ça les a incités à faire plus que... Ça n'a pas été simplement 3 ans de plus. Ça a été quelque chose en plus. Certains ont été, du fait de rester à l'école 3 ans de plus, sont en fait restés plus longtemps. Ça, c'est un indicateur assez intéressant. Donc voilà, pour l'école, ça c'est attendu. Ce qui est plus intéressant, enfin pour moi, économiste en tout cas, je ne sais pas pour vous, c'est de regarder les trajectoires sociales, salariales. C'est là où il y avait beaucoup de débats, en tout cas parmi les économistes. Alors on peut regarder deux choses. On peut regarder le niveau des carrières et ensuite les inégalités de carrière entre enfants de différents milieux sociaux. Et première chose qui soulage ceux qui sont plutôt des défenseurs de la démocratisation, quand vous comparez le niveau moyen des carrières salariales, le niveau des salaires à chaque âge de la vie, pour parler autrement, il est supérieur à tous les âges de la vie pour les adultes qui ont passé leur enfance dans les zones passées de manière anticipée à l'école unique. Il y a un surcroît de salaire qu'on observe dans les carrières de ceux qui ont été scolarisés enfants à l'école unique. Donc l'école unique produit davantage d'éducation, et cette éducation produit davantage d'employabilité, de capacité productive au fil de la vie, en moyenne. Donc ça c'est donc, alors pour vous donner un ordre de grandeur, on a quelque chose du l'ordre, qu'on a obligé les enfants à passer en plus dans la nouvelle école unique, se traduit par un gain à chaque âge de la vie de l'ordre de 10%, ce qui comme ça a l'air un peu pas fort, mais en fait qui est énorme. Quand vous cumulez 10% sur l'ensemble d'une vie, ça vous fait en revenu permanent, comme disent les économistes, quelque chose d'assez considérable, surtout quand on compare au coût qui est important, mais qui est bien moindre, d'abandonner une année de sa jeunesse à l'école plutôt qu'à commencer à travailler chez son père, pêcheur ou agriculteur, comme c'était le cas des classes modestes scandinaves à l'époque. Donc il y a un rendement moyen de l'école. Et si l'évaluation a fait chez les économistes, en fait, ça fait pas tellement débat que l'école produit quelque chose en moyenne. En revanche, et là ça intéresse directement, je pense, le thème de ce colloque, si cette évaluation a fait beaucoup parler d'elle, c'est que les données étaient suffisamment riches pour qu'on puisse se poser la question de savoir si tout le monde, si toutes les fractions de la société avaient bénéficié également du passage à l'école unique. Et là, on trouve, dans le cas suédois en tout cas, qui a été capable d'aller le plus loin dans l'investigation de cette question, on trouve des résultats assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'on trouve que, en fait, ceux qui ont le plus bénéficié, et nettement plus bénéficié du passage à l'école unique, hein, quand vous comparez des régions passées anticipées et pas passées anticipées, ce sont précisément ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les élèves des classes modestes qui avaient les meilleurs résultats dans le primaire. C'est cette fraction-là, cette moitié-là de la population dont on observe ensuite au cours de la vie qu'elle a des surcroîts de salaire plus particulièrement importants quand elle a été scolarisée dans l'école unique plutôt que pas dans l'école unique. Quand on regarde la moitié des enfants de classe populaire, je veux dire, pour l'époque, ça veut dire 80% d'une classe d'âge, hein, dans les pays scandinaves de l'époque. Quand on regarde la moitié des classes populaires, c'est-à-dire les 40% qui avaient les résultats les plus faibles aux primaires, c'est ce qui est fou avec les données suédoises, c'est qu'on peut regarder tous ces trucs comme ça. Quand on regarde la moitié qui avait les résultats les plus faibles aux primaires, elle, on s'aperçoit que le rendement est positif, mais moindre. C'est un rendement moyen entre 5 et 10%. Et ce qui est particulièrement frappant dans l'évaluation suédoise, c'est que quand on regarde maintenant les enfants des classes aisées, ceux qui, dans l'ancien système, ont leur scolarité sanctuarisée, protégée, mis à l'abri de toute concurrence dans des institutions sélectives d'élite, eux, en fait, l'effet de la réforme sur leur trajectoire est négatif. On trouve un effet négatif. Ce qui fait que l'effet de plus 10% dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait la combinaison de choses qui vont en sens complètement opposé, c'est-à-dire, et en sens contraire de la vulgate conservatrice habituelle, c'est-à-dire qu'en fait, les plus grands bénéficiaires de cette réforme, ça a été les plus doués, entre guillemets, reprenons le terme, des classes populaires. Ceux pour qui ça a été un effet moyen, ça a été l'autre moitié des enfants de classe populaire. Et tout ça s'est fait au détriment, donc il y a eu un fort effet redistributif de la réforme, au détriment des enfants, des 20% d'enfants issus des classes aisées. Donc vu comme ça, on comprend que ce genre de réforme déclenche les passions, parce que on voit bien que cette mise en compétition est, avec les enfants de classe populaire, se fait pas sans coût, se fait pas sans dommage, c'est une remise en question. La mobilité sociale, c'est ça, c'est-à-dire c'est aussi des trajectoires descendantes, hein, sinon il n'y a pas de mobilité. Et c'est ça là, une leçon très forte à méditer de cette expérience suédoise. Je peux citer aussi, puisque la Finlande est quand même souvent citée comme exemplaire, donc la Finlande, comme je le disais, et puis il est toujours bon, je trouve, d'avoir non pas des comparaisons internationales un peu vagues, on ne sait pas trop ce qu'on compare, mais vraiment de regarder chaque pays dans sa trajectoire particulière et ce qui lui est advenu, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on tire les leçons les plus précises. Donc quand on regarde la Finlande, où il y a aussi de très belles études qui ont été faites récemment sur l'effet de ces réformes, et si je me concentre sur celles qui ont porté plus spécifiquement sur l'égalité des chances, le cas finlandais, comme ils sont passés après, il y a eu des débats plus forts, en fait c'est juste une parenthèse, ça a été une réforme encore plus pure, qu'il n'y a vraiment pas eu de volontariat, c'est-à-dire ils ont divisé le pays en 6 ou 7 grandes régions, du nord au sud et d'est en ouest. Donc on commence auprès du pôle Nord et on finit à Helsinki. Et ils ont dit, la réforme, on va la commencer en 71, ça sera au Nord. Et ensuite, on va descendre du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Et chaque année, il y a une région supplémentaire qui passera à la réforme. Et voilà, ça se passera comme ça et pas autrement. Et entre 71 et 77, à peu près, et donc pour les générations, on est entre 61 et entre 60 et 66, quelque chose comme ça. Chaque année, une génération de plus dans une région nouvelle passe au collège unique. Donc vraiment, on est dans un cas presque d'expérience de laboratoire en grandeur nature. Et on est vraiment, là encore, en mesure de faire le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire de comparer au sein d'une génération donnée des enfants nés dans deux régions voisines, l'une que le hasard du protocole retenu fait qu'il n'avait pas passé à l'école unique, et l'autre qui fait que le hasard du protocole retenu fait qu'il est passé à l'école unique. Et là, de nouveau, pour ce qui est de... On retrouve le même résultat très net que quand on regarde... une autre forme d'indicateur, quand on regarde le degré auquel le revenu des parents prédit le revenu des enfants plus tard, hein, c'est un indicateur de base de la mobilité sociale, on s'aperçoit qu'il diminue ce degré d'immobilité sociale, en fait, hein, le degré auquel le revenu des parents prédit le revenu futur des enfants, il diminue de 25%, c'est-à-dire il passe à peu près de la corrélation est de 0,3 dans les régions dans l'ancien système, et quand la région passe au nouveau système, ça descend à 0,2. Vous voyez, ça, 0,22, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous étiez dans l'ancien système, une différence de 10% entre le revenu des parents entraînait en moyenne une différence de 3% dans les revenus des enfants. C'est ça la forme d'immobilité sociale suédoise à l'époque. Et une fois qu'on est passé à l'école unique, ce taux de reproduction sociale du revenu descend à 2,2%, ce qui est considérable. Ça, gagner 25% sur un coefficient de cet ordre, aussi profond, caractérisant aussi profondément la société, c'est des effets démographiques qu'on obtient très très rarement. Donc l'expérience finlandaise est à la fois encore presque plus pur, hein, c'est un cas vraiment très pur d'expérimentation sociale à l'échelle d'un pays, et l'endroit du diagnostic où elle est où elle produit des résultats les plus nets, c'est ceux sur la mobilité sociale, c'est-à-dire ce déclin du... malheureusement, les données disponibles ne permettent pas de faire cet exercice suédois particulièrement passionnant, de voir si c'est à nouveau la fraction de ceux qui réussissent le mieux qui est la plus portée par la réforme, ce qui, dans le débat, est un argument, vous le voyez bien, assez important. On pourrait décliner le même genre de diagnostic pour la Norvège, avec le même protocole et le même genre de résultats. Alors, une fois qu'on a dit ça sur les pays scandinaves, bien sûr, l'une des objections, c'est, bon, les pays scandinaves, d'accord, c'est toujours eux qui sont cités en exemple, etc. Est-ce que ce qui vaut pour des sociétés aussi intégrées, aussi centralisées, aussi des sociétés aussi folles, quoi, en fait, où déjà, dans les années 50, ils étaient capables de se mettre d'accord pour faire ce que nous, aujourd'hui, on est totalement incapables de faire, c'est-à-dire un protocole un petit peu contrôlé pour évaluer sérieusement ce qu'on fait en même temps qu'on le fait. Est-ce que vraiment ce qui vaut pour ces sociétés-là vaut pour nous? Est-ce qu'on peut dire de leur façon d'encaisser un choc aussi important vaut pour des sociétés beaucoup moins centralisées et ordonnées que les sociétés britanniques, par exemple, ou les sociétés françaises? Personnellement, je suis pas mal intéressé un petit peu par le hasard des choses, et puis parce que j'ai relativement peu accès aux données françaises, je me suis pas mal intéressé au cas anglais. Le cas anglais est beaucoup moins favorable pour l'évaluateur, au sens où il n'y a pas eu d'agence nationale, il n'y a pas eu de protocole pensé pour évaluer en même temps qu'on faisait la réforme. Alors juste des éléments de contexte à nouveau, hein, parce que tout le monde n'a pas en tête ce qu'était le système anglais. Le système anglais était presque plus élitiste encore que le système français ou que les systèmes scandinaves. Vous aviez un examen qui se déroulait pendant un jour à la fin du primaire, qui s'appelle un examen qui vraiment structure les mentalités anglaises, qui existe encore en Irlande, qui s'appelle le 11+. Et donc voilà, vous avez votre examen, et si vous êtes dans les 25% meilleurs scores à l'examen, vous avez le droit d'aller dans ce qu'on appelle les grammar schools, les grammar schools d'élite, qui sont celles qui sont une voie pour des études supérieures. Sinon, vous êtes condamné à quitter l'école à 13 ou 14 ans en faisant éventuellement une forme d'apprentissage. Donc, on pourrait faire l'historique de pourquoi ça c'était comme ça en Angleterre comment au début. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, il y avait une forme de consensus dans l'immédiate après-guerre sur un système aussi sélectif. Puis ce consensus s'est fissuré. Les travaillistes ont commencé à se poser des questions. Et quand ils sont revenus au pouvoir au milieu des années 60, ils étaient relativement, il y avait un relatif consensus en leur sein pour réformer le système. Et vers 65, par là, ils ont édicté quelque chose pour dire il faut passer à autre chose. Mais le cas anglais est assez amusant quand on le compare au cas suédois. C'est-à-dire qu'en le cas anglais, vous avez le gouvernement qui dit, voilà ce qu'il dit. Bon, il dit, alors c'est un système très décentralisé. Vous avez une centaine de districts scolaires qui ont chacun leur agenda, chacun leurs moyens, etc. Le pouvoir central dit, bon, il faudrait passer à autre chose. Bon, je vous laisse le choix. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. L'agenda, vous choisissez, mais il faudrait quand même que ça se fasse dans les 10 ou les 15 ans. Enfin, je caricature. Et donc, on a quelque chose de beaucoup moins, qui est beaucoup plus fuyant pour l'évaluateur que le cas finlandais, où là, c'est passé en rang serré en 6 ans et dans l'ordre qui avait été défini à l'avance. Donc on est, il faut le dire à l'avance, dans un cas beaucoup moins favorable, mais qui reste néanmoins très intéressant, précisément parce que c'est une société aussi différente, qui reste précisément intéressant. Alors dans le cas anglais, pour pas passer trop de temps, dans le cas anglais, ce qui est intéressant néanmoins, et qui tranche aussi avec la France, c'est que dès les années 50, les gens se sont quand même posé des questions sur, d'une manière... longitudinales. C'est-à-dire, ils se sont posé des questions sur la façon. Ils étaient déjà conscients du fait que beaucoup de choses ne pouvaient être éclairées que dans la mesure où on pouvait suivre les trajectoires au fil du temps. Et donc, on dispose, dans le cas anglais, de deux très beaux outils, qui sont deux panels qui ont été. Qui s'appellent le NCDS et le BCS, qui ont été faits le premier. Et donc, chacun d'entre eux suit tout au long de sa vie, avec vraiment à la naissance jusqu'à. Ça continue aujourd'hui, avec des tests à 11 ans, à 16 ans, standardisés, qui se répètent, etc. Donc, deux très beaux outils de suivi longitudinaux. L'un pour la cohorte de 1958 et l'autre pour la cohorte née en 1970. Alors ces deux cohortes, pour ce qui m'intéresse, sont pas mal parce que l'une correspond à une cohorte qui a été la cohorte née en 58 qui a été en grande partie scolarisée dans l'ancien système et l'autre cohorte correspond à une cohorte qui a été en grande partie scolarisée dans le système comprehensive. Grammar School, c'est le système Grammar School, c'est celui sélectif qui prévalait beaucoup pour la première cohorte. Et ce qu'on peut faire avec ces outils, on peut faire plein de choses, mais l'une des choses qu'on peut faire, c'est regarder, tout simplement, ce sera une indication, regarder par exemple, ce qui est possible de faire avec ces outils, c'est regarder si les performances scolaires à l'issue de l'adolescence, à 16 ans, ont ou non évolué selon que, entre les deux périodes, entre les deux cohortes, le district scolaire où est scolarisé l'enfant est ou non passé beaucoup, un peu, pas du tout au niveau système. Pour chaque district, entre les deux périodes, selon son agenda propre, est passé plus ou moins fortement, plus ou moins intensément au nouveau système, à l'école unique. Et on peut regarder s'il y a une corrélation entre le degré auquel il a substitué des écoles uniques, compréhensives, tout le monde dans les mêmes cours de récréation, à l'ancien système sélectif des établissements séparés, LFN+, etc. On peut regarder si le degré de substitution du nouveau système à l'ancien système a une corrélation ou pas avec l'évaluation des performances moyennes, l'élévation des inégalités à l'école. Donc ce qu'on peut faire, ce que je voulais vous montrer comme graphique, parce que je le trouve bien, ce qu'on peut faire, c'est mettre en abscisse le degré auquel le district scolaire est passé. Voilà, ça, chaque petit point représente l'un des districts scolaires anglais. En ordonnée, vous avez l'évolution des performances mesurées par un test standardisé à 16 ans des enfants ayant grandi dans le district scolaire. Et en abscisse, vous avez un indicateur du degré auquel le district a substitué de l'école unique au Grammar School. Et vraiment, c'est assez robuste. Hein. Il y a plein de façons de faire ce genre de graphe en modifiant les mesures utilisées, etc. Il y a une corrélation très robuste entre l'évolution des performances moyennes dans le district scolaire entre les deux cohortes et le degré auquel la comprehensivation, comme disent les Anglais, a eu lieu. Et en guise de test de robustesse de ce diagnostic, on peut faire la même chose, ça s'appelle des tests de falsification, en prenant non pas les résultats à 16 ans, l'évolution des résultats à 16 ans, mais l'évolution des résultats à 11 ans. Parce que si j'avais la même chose avec les résultats à 11 ans, mon diagnostic ne serait pas tellement pertinent. Si vous faites la même chose avec les performances à 11 ans, vous voyez que le truc est complètement plat. C'est-à-dire le degré auquel les collèges sont devenus uniques, ça veut dire que la qualité des enfants arrivant dans les collèges des différents districts est restée complètement identique, n'a pas varié spécialement. Ce n'est pas dans les districts qui ont le plus... voyez. Sinon, mon précédent résultat, il y aurait un doute dessus. Si j'avais également une amélioration des résultats à 11 ans, je ne pourrais pas attribuer l'amélioration des résultats à 16 ans au passage à l'école unique. Si je regarde les résultats à l'école à 11 ans, il n'y a pas vraiment de lien entre le degré auquel on est passé à l'école unique et le degré auquel ont évolué, se sont améliorées éventuellement les performances à 11 ans. Maintenant, si je regarde à 16 ans, une fois les années de collège passées, une fois les années d'adolescence passées, là, je vois un effet, une corrélation très positive entre le degré auquel le district scolaire est passé à l'école unique et l'évolution de ses performances moyennes. Alors, c'est un peu plus sophistiqué. On peut faire des analyses de l'effet de cette réforme sur les inégalités entre enfants. Ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Ce qu'on constate pour ce qui est de la mobilité sociale, c'est que dans l'ancien système, l'ancien système des grammar schools, quand on le regarde vraiment, quand on l'ausculte en détail à l'aide de ces bases de données, ce qu'on constate, en fait, et ça doit être quelque chose d'assez universel, mais qui est vraiment mesurable avec ces bases de données NCDS, là, ce qu'on constate, c'est qu'il crée spécifiquement, c'est d'ailleurs c'est cohérent avec ce que j'ai dit sur la Suède, il crée spécifiquement des inégalités entre les enfants bons et moyens à l'école primaire. Si vous êtes bon plutôt que moyen à l'école primaire et d'une classe sociale aisée, vous allez aller dans une grammar school. Parce que si vous êtes dans une classe sociale aisée et bon, vous allez toujours dans une grammar school. École sélective, voie royale, etc. Si vous êtes dans un milieu populaire et que vous êtes bon plutôt que mauvais, vous n'allez pas nécessairement dans une grammar school. Une grande partie des bons élèves des classes modestes n'allaient pas dans les grammar schools. Ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas ça qui était dans leur... Ça ne servait à rien de passer du temps à l'école. Et donc, même bons, ils n'allaient pas dans une grammar school. Donc, on observe effectivement, dans le NCDS, dans les bases de données antérieures à la réforme, on observe effectivement à la fois de fortes inégalités, un fort effet des aptitudes dans le primaire sur les inégalités entre enfants de classes sociales différentes. Et dans le BCS, après la réforme, ce qu'on constate, maintenant être bon plutôt que mauvais, plutôt que moyen, pardon, à l'école primaire, ne crée pas spécialement de différence de trajectoire selon qu'on est dans un milieu social élevé ou dans un milieu social modeste. Et ce qu'on constate, c'est qu'en même temps, disparaissent les inégalités scolaires et de diplômes et des résultats de salaire qui existaient entre enfants doués dans le primaire de classe élevée plutôt que moyenne. Donc c'est à cet endroit-là qu'on repère des effets très forts sur les inégalités sociales, c'est-à-dire en haut de la distribution des aptitudes. On retrouve pour l'Angleterre ce qu'on trouvait déjà pour la Suède, c'est-à-dire que c'est particulièrement pour les enfants des classes modestes les qui réussissaient le mieux au primaire, en tout cas, disons-le comme ça, que par rapport aux enfants de mêmes aptitudes, mais de milieux sociaux plus riches, c'est pour ces enfants-là que le système sélectif était particulièrement handicapant. Et c'est là que la réforme a eu le plus de rendement, comme disent les économistes. Voilà, c'est l'argument qui est développé sur ce transparent. Alors, maintenant, quand on en vient à la France, c'est encore plus difficile à évaluer. On n'a pas ces données longitudinales avant, après. On n'a évidemment pas de protocole pensé à l'avance pour se donner les moyens d'évaluer la réforme en même temps qu'on la mène. Alors, on s'est pas interdit quand même d'essayer de faire des évaluations du premier âge de la démocratisation, c'est-à-dire toute cette période. Alors, en plus, dans le cas français, c'est pire encore que le cas anglais, parce que vous le savez bien, le collège unique, en fait, c'est pas 1975, c'est quelque chose qui a commencé à la fin des années 50 et qui, en fait, s'est achevé dans les années 80, c'est-à-dire le véritable moment où l'ensemble d'une classe d'âge va jusqu'en troisième, c'est pas 75, c'est le milieu des années 80, c'est chevènement en fait. C'est au moment où on se fiche des objectifs pour le lycée qu'on atteint en fait par défaut des objectifs pour le collège. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une réforme qui a concerné tout le monde en même temps et sur une période de temps complètement gigantesque, donc c'est le cas le pire pour qui veut évaluer l'effet d'une réforme. C'est-à-dire elle n'est pas localisée dans le temps, elle n'a pas inscrit dans les trajectoires d'inflexion particulièrement significatives. On ne peut pas vraiment regarder de coïncidence entre des inflexions ici et des inflexions là. C'est toujours comme ça qu'on essaie de construire des arguments de causalité. Donc là, on est vraiment dans un cas très, très défavorable. Bon, ben néanmoins, pour le débat, on s'est pas interdit de produire des choses. Alors, une des choses, finalement, qui a beaucoup de défauts, mais qui est quand même, ne serait-ce que comme base factuelle, intéressante à regarder, on est parti du constat avec quelques collègues du fait que, en fait, toute cette période de passage au collège unique en France, et l'élévation progressive de l'abolition des examens d'entrée en sixième, l'élévation progressive de l'âge minimum de scolarité, la loi ABI, et puis le véritable moment, c'est-à-dire l'abolition de fait de la préorientation en cinquième, pas totalement, mais presque totalement dans les années 80. toutes ces étapes, tout ce premier âge du collège unique, disons entre pour les cohortes qui sont nées entre dans l'immédiate après-guerre jusqu'aux cohortes du début des années 60, hein, vous avez une vingtaine de cohortes comme ça qui sont concernées par cette réforme. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que pendant ce temps-là, il y a un segment du système éducatif qui, au moins au regard des grands critères habituels, est resté complètement intact, complètement à l'écart de cette réforme. C'est le système de sélection des élites, c'est le système des classes préparatoires et des grandes écoles. Quand vous regardez au cours de cette période-là, au cours de ces 20 générations-là, ce système, je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement institutionnel fort dans son fonctionnement. Et statistiquement, quand vous regardez quelle fraction de la population il a accueilli, elle est hyper stable tout au long de ces 20 cohortes. Si vous avez une définition stricte des grandes écoles, vous avez 0,8% de la population qui va dans les très grandes écoles en 1900, pendant la génération 50, comme dans la génération 62 ou 63. Donc vous avez une quinzaine de générations où ce truc, alors que le système secondaire du premier cycle du secondaire s'uniformisait, qu'on harmonisait le primaire et le secondaire, vous avez quelque chose qui était complètement à l'écart de ça, du point de vue de la fraction de chaque génération qui y était accueillie. Définition stricte, vous avez un peu moins de 1%. Définition un peu plus large de ce que c'est que le supérieur sélectif, vous avez 4,5% de la population. D'ailleurs, je vais avoir un tableau là-dessus. Vous avez quelque chose de très stable. Donc, vous avez 95% de la population. C'est plus loin, je crois. 95% de la population, voilà. GE, ça veut dire grandes écoles. Vous voyez, 46, c'est les générations. 66, c'est les générations. Donc ça, c'est un peu le premier âge du collège unique, avant la démocratisation du lycée, etc. Là, vous avez quelque chose, quelle que soit la façon stricte ou plus lâche dont vous définissez Puis en fait, on pourrait même dire le supérieur long, l'université. Vous avez quelque chose qui est resté tout à fait fermé à l'œuvre de démocratisation qui était en cours pour le primaire et le secondaire. Vous voyez que dans le même temps, la façon dont un économiste qui raisonne de loin de s'approprier cette période, c'est de dire vous avez le haut de la distribution intacte et en bas, le phénomène essentiel sur cette période, c'est la substitution de diplômes CAP et BEP du professionnel court à pas de diplôme du tout. Donc il y avait des gens qui sortaient sans diplôme et vous avez des gens qui sortent avec des diplômes, même en fin de période, vous avez une croissance des diplômes universitaires courts qui ont été créés, notamment qui sont commencé à se développer après mai 68. Donc vous avez une substitution pour les 95% qui n'ont pas accès à l'élite. Alors, l'élite est stable du point de vue de la fraction de chaque génération qu'elle recrute. Elle est aussi stable, on peut le vérifier sur d'un autre point de vue qui est intéressant pour l'évaluation. Elle est aussi stable du point de vue de la composition sociale, quels sont les milieux sociaux qui envoient leurs enfants dans ces segments d'élite du système éducatif français. Quand vous testez s'il y a eu ou non des changements dans la composition sociale des enfants qui ont accès à ces 4% ou à ces 1% du système d'élite, vraiment vous avez du mal à repérer quelconque évolution significative. C'est une surreprésentation massive des enfants de cadre et des enfants des classes supérieures, et cette surreprésentation est totalement intacte tout au long de ces générations. Donc voilà, je vous ai donné le contexte et l'évaluation. Le geste de l'évaluateur, c'est de se dire, bon, ben, du fait que la sélection est à peu près la même à la fin, au début et à la fin de la période, les différences selon tous les facteurs d'aptitude qu'on peut imaginer, a priori, ces différences sont à peu près les mêmes en 1946 pour la génération 46 que pour la génération 66. La seule chose finalement qui a changé quand on compare le segment d'élite et le reste de la population, le reste du monde, c'est finalement le reste du monde, lui, il a bénéficié de cette réforme de cette unification de l'école, du collège et du secondaire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, ce rattrapage scolaire, cette élévation sélective du niveau de diplôme des 95% par rapport à l'élite qui est restée complètement à l'écart de toute réforme, est-ce que ça a produit quelque chose sur le marché du travail? Parce que ça a produit une, notamment en milieu de carrière. Alors, ce qu'on a regardé, c'est dans les années 80, on a pris tout le monde à peu près au milieu de sa carrière, loin des turbulences de l'entrée, etc. On a pris des gens entre 40 et 50 ans. On a regardé si cette réduction des inégalités devant la qualification initiale conduisait à une réduction ou pas des inégalités dans les performances sur le marché du travail en milieu de vie active. Et je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce diagnostic. Et ce qu'on trouve, c'est bel et bien un effet de réduction des inégalités en milieu de vie active entre les 95% et les 5% qui sont restés à l'écart de la réforme. Vous voyez, donc là, ce n'est pas des régions que je prends. On n'a pas de région en France, donc on a essayé de construire l'équivalent fonctionnel des régions du cas finlandais, c'est-à-dire des groupes qui, à un moment donné, ne sont pas affectés de la même manière par la réforme que l'on cherche à évaluer. Donc vous avez le segment de l'élite qui, lui, est resté à l'écart de tout ça. Le reste qui a pris de plein fouet la réforme. Et après, on regarde si ça a fait des changements à certains moments clés de la vie, le milieu de la vie active ici. Et on trouve effectivement des effets assez nets, je crois. Voilà. Ça, c'est, là, je l'ai fait pour chaque cohorte entre 1946 et 1970. C'est l'écart salarial en milieu de vie active entre ceux qui ont été dans le système des grandes écoles et ceux qui étaient pas dans le système des grandes écoles et qui donc sont ceux pour lesquels on a cette élévation du niveau relatif de vie. Bien, en fait, au milieu de vie active, vous apercevez que tendanciellement, vous avez une réduction des inégalités salariales en milieu de vie active. Il y a d'autres critères. Donc, c'est une évaluation moins pure que celles qui sont possibles dans les cas scandinaves. Il y a tout un tas de tests de robustesse qui est nécessaire de faire pour se convaincre que c'est bien de l'effet de la réforme qu'on capte ainsi. Mais en tout cas, c'est un élément factuel. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent à charge pour eux de produire des éléments qui contrent cette forme d'évaluation. Alors après, vous savez bien que dans le cas français, on a eu un deuxième âge de la démocratisation du secondaire qui a mordu sur l'universitaire, qui est le passage à partir des slogans de Chevènement dans les années 80, l'ouverture du bac, la création du bac pro, la multiplication des places au passage quand même les formes, quand on regarde concrètement les formes qu'ont prises les différentes périodes de démocratisation en France, qui s'est surtout diffusée, ce sont ce qui n'est pas vraiment dans le débat les trois quarts du temps, c'est quand même surtout des qualifications techniques, professionnelles. On stigmatise le système français comme ayant diffusé des qualifications générales sans rapport. En fait, c'est tout le contraire. Quand on regarde les différentes périodes de démocratisation du système français, on s'aperçoit que le premier âge, c'est des diplômes professionnels courts qui se sont substitués à pas de diplôme du tout. Et le deuxième âge, c'est pour beaucoup des qualifications secondaires et universitaires professionnelles. Donc, c'est pas vraiment la stigmatisation de nos efforts de démocratisation comme ayant été généralistes, etc. Puis même sur ce point, alors là, ce serait intéressant de regarder la réforme norvégienne de ce point de vue-là. Eux ont des éléments qui montrent qu'en fait, des éléments intéressants, là, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre, quand la réforme a plutôt une orientation généraliste que professionnelle, eh ben, l'effet de long terme sur les carrières professionnelles est plutôt meilleur, plus fort, en tout cas pour les générations des années 50 et 60. Donc il y aurait aussi de toute façon à discuter sur l'argument qui consiste à dire que sur le long terme, on a intérêt à être le plus professionnel possible. Mais en tout cas, dans le cas français, c'est plutôt des qualifications secondaires puis universitaires professionnelles qui se sont diffusées. Alors, cette seconde période est un peu plus facile. Enfin, il y a un autre. On peut l'évaluer avec le même, en faisant le même genre de stratégie, c'est-à-dire isoler des groupes d'élite qui ont été relativement à l'écart de ce second âge de la démocratisation scolaire. On peut faire autre chose au sens où, quand même, ça a été des inflexions très brutales, beaucoup plus brutales que le collège unique. Ça s'est passé sur relativement peu de temps. C'est-à-dire, quand vous raisonnez en termes de génération, je vais vous montrer la proportion de bacheliers, par exemple. En abscisse, là, vous avez les générations. Ça, c'est la proportion dans chaque génération de bacheliers et plus. Donc, si vous prenez jusqu'au milieu des années 60, jusqu'aux générations du milieu des années 60, ça progresse. Mais ça progresse à un rythme relativement modeste par rapport à ce qui va arriver après. Après, quand se déclenche là, la fin des années 80 en termes de date et en termes de cohorte, c'est donc de date de naissance, c'est le milieu des années 60. Quand se déclenche réellement 87, c'est la création des bacs pro, leur montée en charge, toute cette démocratisation du bac et l'ouverture conjointe de toutes ces places dans les sections de techniciens supérieurs, de ces places d'IUT. Quand se déclenche ce processus, vous voyez, ça s'inscrit quand même assez nettement dans le rythme auquel le niveau de qualification de chaque génération évolue. Là, vous avez un rythme d'évolution des... Puis si on prenait d'autres indicateurs, peut-être, qui parlent plus aux économistes, et c'est plutôt ça que je montre quand il faut convaincre des économistes, quand vous regardez les dépenses par... dépenses budgétaires par étudiant dans le secondaire, vous avez le même genre de courbe, ça croît comme ça, puis tac, d'un seul coup, ça prend. C'est-à-dire, c'est pas des réformes qui ont été cosmétiques, ça n'a pas été simplement distribué des parchemins, ça a été des choses qui se sont vraiment inscrites dans les budgets, qui ont réclamé des moyens. On a tendance à l'oublier, quoi. Ça a été concret, trébuchant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que donc pour l'évaluateur, c'est que là, vous voyez quelque chose quand même qui s'inscrit assez nettement dans les évolutions au fil des cohortes. Et en fait, il y a même une deuxième inflexion, c'est-à-dire, comme vous le savez, en termes de date, il y a eu la récession du début des années 90, il y a eu un peu de chômage des cadres dans le sillage de la récession, des diplômés, et ça a complètement coupé court à la démocratisation. Et à partir du milieu des années 90, tout s'est arrêté. Et on commence à le voir, là, en fait, si je pouvais poursuivre la courbe davantage, on verrait qu'en fait, ça devient plat à partir de ces cohortes. Là, on a l'impression que ça continue à augmenter. Mais en fait, il y a une première inflexion pour les générations du début des années 70. Et après, ça devient, au milieu des années 70, ça va commencer à fluctuer autour de 65%. Ça va vraiment se stabiliser. Donc, vous avez une réforme qui est plus intéressante que la première pour l'évaluateur, au sens où elle inscrit comme ça dans les tendances... dans le niveau de qualification des cohortes qui se succèdent sur le marché du travail, des inflexions relativement claires. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que moi, la question spontanément que je me pose, c'est, bon, voilà, les cohortes sont arrivées chacune avec un bagage de qualification initiale qui d'un seul coup, a cru plus vite et qui, d'un seul coup, s'est infléchi à la baisse. Vous voyez, il y a deux inflexions. Question, est-ce que... Quand on regarde les emplois qui se sont créés, qu'il a été possible de créer pour accueillir ces générations qui se succèdent, est-ce que les emplois créés notamment à l'entrée sur le marché du travail, là comme je regarde des cohortes récentes, je suis obligé de m'intéresser aux choses qui se passent à l'entrée sur le marché du travail, est-ce qu'on a les mêmes inflexions ? Ou est-ce que la rhétorique malthusienne vous dirait, non, vous pouvez former les gens que vous voulez, faire les inflexions que vous voulez, le système productif, lui, il n'en a rien à affiche, il va offrir ce qu'il y a, et puis voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on voit les mêmes inflexions dans la capacité, alors pour les bac et plus, à offrir pour ces nouvelles générations des emplois de techniciens et de cadres. Si je m'intéressais au supérieur long, je regarderais les cadres. Donc si je fais la même chose, c'est-à-dire, là, ce que je vais vous montrer, c'est le graphe qui correspond aux mêmes cohortes et qui les regarde un certain nombre, une fois passées les turbulences, faut regarder 4 à 5 ans après la sortie du marché du travail, qu'est-ce qui se passe en termes de proportion de ceux qui ont un emploi de cadre ou de profession intermédiaire, je pourrais prendre un critère salarial. Et quand vous faites le même exercice avec ça, avec la capacité qu'a l'économie à offrir des emplois de cadre et techniciens à ces cohortes successives, vous avez ça. Là, voilà. Vous avez à peu près exactement la même courbe, c'est-à-dire quelque chose qui croissait de manière relativement modeste jusqu'au milieu des années 60, qui décolle au milieu des années 60 et qui s'infléchit à la baisse juste au début des années 60. Et quand vous faites... Alors l'évaluateur, ce qu'il fait là-dedans, c'est pour calculer le rendement de donner à quelqu'un bac et plus en termes d'accès aux emplois de techniciens et de cadres, il fait le rapport, c'est une règle de 3, entre l'inflexion à la hausse qui se produit pour les cohortes des années 60 en termes d'éducation, combien je leur donne en plus, et il fait le rapport entre combien ils arrivent à créer en plus d'emplois de cadres et de techniciens, le rapport entre ce surcroît et le surcroît de qualifications que je leur ai donné. Et ce qui est très intéressant dans cette évaluation, c'est que là, il y a deux façons de la faire. Vous pouvez faire le surcroît pour les années 60 de cadres sur le surcroît d'éducation. Vous pouvez faire le déficit après les années 70 de cadres par rapport à si la tendance s'était poursuivie. Et le déficit d'emploi de cadre, de qualification bac et plus qui est observé du fait du ralentissement de la démocratisation. Pour l'évaluateur, toujours, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ces deux évaluations, on obtient, ce qui est réconfortant, la même élasticité, hein, pour parler en statisticien ou en économète, c'est-à-dire l'élasticité, là vous voyez c'est 0,38, là j'ai fait le ratio entre les deux surcroît du début du milieu des années 60 et en dessous j'ai fait le ratio entre les deux déficits du début des années 70 et vous avez le même ratio 0,38 qui est à peu près disons 0,4, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous accroissez de 10% dans une génération la proportion de bac et plus, vous accroissez dans l'économie pour cette génération 4 à 5 ans après sa sortie du marché du travail de 4% la proportion d'emplois de cadres et de techniciens. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors on peut voir une façon conservative de dire, c'est donc le monde n'est pas totalement malthusien. De toute façon, c'est quelque chose qui, quand on regarde, ben, ça serait autre chose, ça serait un autre débat. Quand vous créez des qualifications, vous créez aussi les emplois qui vont avec. Là, l'argument, il faudrait plus de temps pour le développer, mais quand on regarde quelque chose que les gens, qui est assez peu dans le débat et qui est fondamental ici, qui serait fondamental de bien illustrer, c'est que quand le niveau d'emploi d'une économie ou d'une société ou le niveau reste stable égal à zéro, voilà, vous regardez l'évolution nette, c'est 0,5 par an, etc. Vous avez l'impression de quelque chose qui stagne, qui bouge pas. Mais en fait, ce 0%, on sait aujourd'hui, à l'aide des bases de données très très détaillées dont on dispose, que quand le nombre d'emplois dans l'économie reste stable, cette stabilité cache en fait un renouvellement énorme du flux d'emplois. C'est-à-dire, vous avez 0%, c'est plus 8% d'emplois nouveaux créés et moins 8% d'emplois anciens détruits. Et ce que disent ces chiffres, c'est que c'est plus 8%, eh ben, c'est plus 8% de chaque année de nouveaux emplois, eh ben, leur qualité n'est pas inscrite dans le marbre, elle est inscrite nulle part. Leur qualité, c'est en partie ce qu'il a fait, c'est qui arrive, notamment sur le marché du travail, pour répondre à ces nouveaux postes, à cette nouvelle organisation des entreprises. Donc ça, c'est un autre thème, mais qui est vraiment tout à fait important d'avoir en tête ici pour bien comprendre ce genre d'élasticité. Donc là, j'ai pris bac et plus, technicien et cadre. J'aurais pu prendre supérieur long et cadre, par exemple. Je crois que j'ai pris les graphes. Ils sont assez intéressants aussi. Ouais, supérieur long, vous avez également les deux inflexions que je vous disais, qui ne se produisent pas exactement au même endroit, mais presque. Et quand vous faites la proportion de cadre, vous avez à peu près la même inflexion au même moment, le même timing, c'est-à-dire c'est quasiment plat jusqu'au début des années 60. Ça croît avec un rythme beaucoup plus élevé en moyenne entre le début des années 60, c'est pas dans le livre, et le début des années 70. Et ensuite, c'est vraiment pour le séminaire. Donc un deuxième. Et là, si on faisait les calculs d'élasticité aux deux inflexions, on aurait la même coïncidence. Alors, j'ai pas quelques points de méthode, c'est-à-dire. Quelques points de méthode, c'est-à-dire dans ce débat sur malthusien, pas malthusien, etc., il y a souvent une confusion énorme sur les choses. C'est-à-dire, il y a notamment souvent des débats qui s'organisent de manière complètement déséquilibrée entre des personnes qui, comme moi, développent un argument pour dire très précisément ce que disent ce genre d'évaluation, c'est si elles sont justes, si on adhère à ce qu'elles disent, c'est. Les nouveaux publics auxquels on a fait accéder au secondaire long, voire à des diplômes technologiques courts, en ont bénéficié. Il y a eu un rendement social au sens, c'est pas un rendement privé. Là, je suis pas en train de dire. Là, je compare des cohortes successives qui ont été en compétition à l'entrée au marché du travail à des moments différents. Donc, c'est pas le rendement privé qu'on a chacun au milieu de sa, au sein de sa cohorte, être plus diplômé que l'autre pour apparaître meilleur, etc. Là, c'est vraiment des rendements, vous voyez, c'est des courbes qui ont vraiment bougé à l'échelle de générations entières. Donc là, on parle de rendement social. Oui, ça, c'est une première forme de débat qui est souvent complètement mal engagé. Là, je ne parle pas de rendement privé. Là, je parle de rendement sociaux, au sens où il s'agit de cohortes successives et de destins à mesurer à l'aune de cohortes entières à des moments différents. Première chose. Et deuxième chose, il s'agit d'une évaluation d'un rendement moyen sur une période donnée. Il s'agit pas. Souvent, les débats sont entre des gens qui disent Voilà, c'est positif pour une cohorte, au sens que je viens de dire, de lui offrir davantage de positions, davantage de formation. Et d'autres qui répondent non, c'est nul, ça fait baisser le rendement du diplôme. Vous voyez, il y a des arguments qui se croisent, qui ne sont pas sur le même objet. Le premier, ils disent il y a un rendement de 0,4, voilà, qui est ce qu'il est, qui n'est peut-être pas assez fort. Il y a la marge pour le faire arriver à 1, mais qui n'est pas 0 non plus, qui est 0,4, voilà, et qui existe, qui est ce qu'il est. Voilà, c'est un rendement moyen sur cette période, à cette époque de la société française. Quand on a fait ça, on a fait arriver à certains étages du système éducatif des nouveaux publics, et ça a eu un effet sur leur trajectoire. Si on n'avait pas fait ça, alors ils n'auraient pas eu ce truc. Donc il y a un effet moyen sur ces trucs. Et un autre argument qui consiste à dire ce que vous avez fait, ça a conduit à une dévaluation du bac, ça a conduit à une baisse du rendement, etc. Donc ça, c'est un autre argument qui réclamerait d'autres diagnostics. Il faudrait être capable, pour vraiment illustrer, pour vraiment fonder en raison cette seconde forme d'argument, il faudrait être capable d'aller à l'ordre 2, c'est-à-dire de faire mieux que ça encore, c'est-à-dire d'être capable de dire... Voilà ce qui se passait à telle période grâce à telle inflexion, et voilà ce qui se passe à telle autre période grâce à telle inflexion. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais souvent les débats sont vraiment entre des gens qui ne parlent pas de la même chose, et notamment pour cette raison simple que certains parlent du rendement moyen et d'autres de l'évolution du rendement de l'école. Puis alors un dernier point aussi, c'est que dans le débat vous avez souvent, j'ai presque honte de le dire, mais vous avez souvent des arguments du genre voilà, à telle période quand on avait le bac on avait je sais pas 60% de chances d'être cadre, aujourd'hui quand on a le bac on a 34% de chances d'avoir le bac, donc voilà, le bac sert plus à rien. Le problème, c'est qu'on parle pas des mêmes populations, c'est-à-dire qu'à une époque où il y avait 30% de la population qui avait le bac, voilà, c'est une certaine époque, et le rendement du bac à cette époque c'était sur ces 30%. Aujourd'hui c'est pas le meilleur tiers qui a le bac, c'est le moins bon tiers qui n'a pas le bac, donc c'est une autre population, et comparer ces deux chiffres n'a pas de sens. On parle à la fois de l'évolution du rendement du bac et de l'évolution de la population qui a le bac et de ce qu'elle serait sans le bac de son potentiel professionnel. Donc on mélange deux choses dans l'évaluation, et ce qui fait que cette évaluation est vraiment très 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 problématique, tant pour ce qui est du niveau que pour ce qui est de l'évolution d'ailleurs du... Donc je voulais dire ces choses parce qu'elles sont tellement fréquemment dans le débat qu'il me semble utile de les rappeler. Je peux continuer un tout petit peu sur un petit 10 minutes sur une question qui est, donc là je suis au bout de ce que j'avais prévu comme première étape de mon exposé, à savoir est-ce qu'on peut et dans quelle mesure se réapproprier le bilan de ces périodes historiques de démocratisation du système éducatif. Ben voilà, il me semble qu'on peut se le réapproprier dans la mesure précise de ces chiffres. En tout cas, en tant qu'économiste, c'est comme ça que j'arrive à me les réapproprier. Après, il y a une autre question qui est tout à fait légitime, hein, une autre objection qui est tout à fait légitime, c'est que ça commence à dater, de fait, un petit peu. Et est-ce que ce qui valait à l'époque vaut toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'une nouvelle étape de la démocratisation concernerait d'autres fractions de la population ? Est-ce que les rendements seraient les mêmes ? Est-ce que ça serait pas... qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, sur l'état actuel du marché du travail et de la société ? Est-ce qu'elle serait capable d'encaisser un surcroît de démocratisation ? Une façon de répondre à cette question, c'est de regarder les tensions actuelles du marché du travail. En économiste, c'est comme ça qu'en tout cas que je procéderai. Et alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'une part, quand on regarde, je sais pas, les 15 dernières années, les 10-15 dernières années, on constate que la population présente qui offre son travail sur le marché du travail, là je parle de la France, hein, je pourrais parler d'autres pays, mais restons sur la France, quand on regarde ça, et ben du fait, même alors même que la démocratisation au fil des générations a cessé, le simple fait que les générations se renouvellent fait que cette population est de mieux en mieux formée. Vous avez une population de mieux en mieux formée sur le marché du travail. Les générations anciennes partent à la retraite. Elles sont moins formées que les générations nouvelles. Donc au fil des générations, ça s'est stabilisé. L'effort de démocratisation s'est arrêté. Mais le simple renouvellement des générations fait que la population qui offre son travail sur le marché du travail français est chaque année plus formée, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. J'ai regardé les chiffres avant de venir. On peut dire qu'on est sur une tendance de 5 points de bac plus 2 en plus tous les 10 ans. C'était à peu près cette tendance. Bon, en parallèle, toujours en économiste, hein, c'est comme ça que je vous invite à réfléchir à la question. Donc, il y a une offre, il y a une main-d'œuvre, une forme de salariat qui, sur le marché du travail, devient de plus en plus abondant par rapport à une autre. C'est la main-d'œuvre diplômée, de plus en plus abondante. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des coûts relatifs? Alors ça, c'est un exercice qu'on avait fait avec une collègue. À quel point le coût relatif de ces personnes baisse, augmente? En fait, quand on regarde, en tout cas, les dernières fois où moi j'ai regardé ces chiffres, on a quelque chose de très, très stable pour plein de raisons différentes. Il y a eu notamment des manipulations du coût du travail non qualifié qui est tendu à baisser. Donc, et qui fait que quand on compare le coût pour un employeur d'employer une femme bac plus 2 en 1993 et au début des années 2000, bah vous avez que c'est 2,1 plus élevé que le coût d'employer une femme non qualifiée, une sans diplôme, au début des années 2000, comme au début des années 90. Donc vous avez une structure pour les employeurs de coût d'emploi des différentes formes de main-d'œuvre, des différentes formes de diplômés, qui est relativement constante. Bah, sans être un économiste de haut vol, vous avez un facteur, une forme de salariat qui devient de plus en plus abondant, qui est pour autant pas moins cher, qui reste aussi cher qu'il ne l'était. Si rien ne changeait du côté des entreprises, si leur évolution organisationnelle les conduit, enfin si rien ne changeait, quoi, si leur demande par des différents types de diplômés restait intacte, ce qu'on devrait mécaniquement observer sur le marché du travail, c'est des difficultés croissantes pour les diplômés. Ils ne sont pas moins chers, ils sont de plus en plus nombreux. Si les entreprises restent pareilles, ils sont plus nombreux en compétition au même prix pour un nombre d'emplois de plus en plus toujours identique. Et donc, les tensions sur leur marché du travail vont mécaniquement tendre à s'accroître. Or, en France, comme dans les autres pays, ce dont on s'aperçoit, c'est que, en dépit du fait qu'ils ne deviennent pas moins chers, en dépit du fait qu'ils deviennent structurellement de plus en plus nombreux dans la population active, leur statut relatif tend à s'améliorer. On observe exactement le contraire. Donc, dans les pays anglo-saxons, l'ajustement du marché du travail se fait sur les salaires. Ce que vous observez, c'est qu'il y a de plus en plus de diplômés et leur salaire s'accroît. Ils sont de plus en plus nombreux et les entreprises néanmoins changent encore plus vite et ont encore plus besoin d'eux qu'elles sont prêtes à leur accorder un surcroît de statut salarial. En France, où les salaires sont beaucoup plus régulés, où ça se passe peu du côté des salaires, si vous regardez du point de vue du statut dans l'emploi, de l'exposition au chômage notamment, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas commencer par regarder le chômage, ou la précarité, l'exposition au statut précaire, ce dont vous apercevez sur cette même période, c'est que qui est de plus en plus protégé en relatif du chômage et du chômage un peu, mais surtout de la précarité, des emplois précaires et donc des formes de revenus permanents les plus déprimées, ce sont les diplômés. Il y a une protection, un statut relatif dans l'emploi des diplômés qui s'est accru au cours de cette même période. Donc quand vous regardez comme ça évoluer les tensions du marché du travail, le diagnostic qui ressort en France comme dans les autres pays, c'est pas tellement un diagnostic de déclin de la demande de travail des entreprises pour cette forme de salariat, c'est plutôt au contraire des tensions en sens inverse. Elles sont, en dépit du fait qu'ils deviennent plus nombreux dans l'offre de travail qui se présente à elles leur accordent des statuts toujours en relatif plus protégés, plus et des formes de revenus permanents plus élevées. Donc il n'y a rien d'évident dans l'idée qu'on n'est pas dans une économie qui évolue encore, dont la demande de diplômés évolue plus vite que le degré auquel les diplômés se substituent à des non-diplômés dans l'économie. Il y a une tendance récente qui n'est pas vraiment encore illustrée dans le cas français, c'est que jusqu'à une certaine période, cette déformation de la demande de travail des entreprises pour les personnes diplômées, c'était quelque chose qui s'observait pour les diplômes intermédiaires comme pour les diplômes supérieurs. Et ce qui décrochait en relatif dans les données, c'était surtout les personnes sans qualification aucune. Quelque chose qui s'observe en Angleterre, aux États-Unis, qui à ma connaissance n'a pas été illustré en France, c'est que désormais, ce sont essentiellement les plus diplômés, vraiment le diplômé du supérieur, qui continuent à décoller. alors que les diplômes intermédiaires maintenant ne décollent plus par rapport à la demande de travail des diplômes intermédiaires par rapport aux non-diplômés, quand on prend ce type d'approche hein, très, très schématique, on n'a plus d'indice de ce qu'elle s'accroît, que ça s'accroît plus vite pour les diplômes intermédiaires que pour les non-diplômés. Par contre, ça continue pour les diplômés du supérieur. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Faut-il poursuivre l'ouverture ? Alors, un autre mot, j'ai vraiment eu une approche extrêmement économiste. Hein, on peut prendre ça comme ça, un témoignage d'économiste dans ce débat. Il y a d'autres formes d'effets de l'éducation qui sont passionnantes à analyser, qui sont mal analysées en France, où on manque de données, manque d'accès aux données pour vraiment faire la même chose. Aux États-Unis, vous avez... Donc ceux qui sont intéressés peuvent regarder les travaux de Moretti qui sont tout à fait édifiants sur ça. Donc aux États-Unis, vous avez ce truc assez merveilleux pour l'évaluateur, c'est que c'est un système fédéral. Et donc un système fédéral, ça fait que les États passent des lois sans demander leur avis aux autres États, hein, je schématise. Et du point de vue de l'éducation, quelque chose qui a vraiment été très source de beaucoup de connaissances, c'est le fait, c'est les réformes qui ont élevé le niveau minimum d'âge minimum de fin de scolarité dans les différents États. Ils ont beaucoup tiré parti pour illustrer plein de choses. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire récente des États-Unis, vous avez à une date donnée tel État qui va élever son âge minimum de fin de scolarité 2 ans, alors que les États voisins ne bougent pas. Alors, on en a beaucoup tiré parti pour regarder. Alors, pour regarder déjà si ça avait un effet sur les niveaux d'éducation. Oui. Alors, quand le niveau d'éducation de la population s'accroît dans l'État qui est touché par la réforme par rapport aux États voisins. Et après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on observe d'autres variables d'intérêt se modifier quand se produit ce choc législatif dans un État par rapport à ses voisins. Alors s'agissant des faits purement sociaux de l'éducation, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par exemple sur la violence, sur l'incarcération, sur la criminalité, qui montrent de manière assez convaincante que quand un État américain élève son âge minimum de fin de scolarité, non seulement vous avez une élévation du niveau relatif d'éducation de la population dans cet État par rapport aux États voisins, mais vous avez aussi des baisses des taux d'incarcération, des baisses des taux de criminalité, des baisses des indicateurs de violence dans cet État par rapport à l'État voisin. Donc c'est des éléments évidemment très positifs pour tout ce qui concerne les externalités de l'éducation. Ça n'est pas simplement des rendements pour ceux qui se forment, ça a des rendements pour toute la société, d'avoir des gens mieux formés. Et là, l'aspect de base qui est là en cause, c'est la criminalité ou la violence. Aux États-Unis aussi, vous avez d'autres plus économiques, d'autres recherches de Moretti toujours, qui montrent que quand vous prenez deux entreprises qui emploient le même type de main-d'œuvre individuellement, hein, mais même type de diplôme, même structure par sexe, par âge, etc., mais l'une qui agit, qui interagit, qui opère dans une ville où la population est en moyenne mieux formée que la population où interagit la seconde, Moretti a montré de manière quand même tout à fait récurrente et solide que celle qui est implantée là où le niveau général de la population est plus faible a une productivité, source de salaire et de revenus. Donc il y a des interactions qui se nouent et qu'il explore au niveau plus purement économique également. Voilà, je vais m'arrêter là en ouvrant sur éventuellement, il y a plein de débats que j'ai pas apportés. Si on veut, donc si on adhère à ce bilan, si on se réapproprie ce bilan, si on adhère à l'idée qu'il ne serait pas complètement inutile de conforter la démocratisation, sinon de la poursuivre, alors il y a plein de questions qui se posent, comment faire mieux, hein, 0,4, hein, tenons-nous-en à cette évaluation, c'est bien, mais pourquoi on pourrait sans doute faire mieux. Donc il y a des questions qui se posent sur le bilan de la maternelle, des bilans de nos politiques de remédiation, des bilans de nos politiques sur la carte scolaire, de mise en concurrence et de libéralisation du secondaire, sur la transition lycée-université. Puis des choses que je trouve passionnantes, si vraiment il est question de justice, une question que je me pose, c'est est-ce que vraiment peut-être la voie la plus efficace, c'est pas ça, mais vous connaissez bien ce débat, pas vraiment du côté de l'école, mais est-ce que c'est pas du côté des politiques sociales en général qu'il faut se tourner pour essayer d'améliorer les choses ?